Les poneys avaient été tués d'une balle dans la tête. Notre entretien avec le colonel Edward F. Norton, le médecin R.W.G. Ingston, le docteur Theodore Howard Somerville, le capitaine John B. Noel et Noel E. Odell a lieu en octobre après l'office commémoratif en hommage à Mallory et à Irvin. Tous ces membres de l'expédition de 1924 et amis du diacre pour ce qui est des trois derniers doivent assister à une réception organisée par l'Alpine Club à la Royal Geographical Society, 601 Kensington Gore, et nous sommes conviés à les retrouver dans la salle des cartes ce samedi après-midi. J'espère qu'ils ont prévenu à l'entrée que nous sommes attendus, dis-je alors que nous descendons du taxi en face de Kensington Gardens. Les ombres du soir s'allongent et l'immense dôme de l'Albert Hall se dresse au-dessus du bâtiment en briques de la Société de Géographie. Au soleil couchant, les feuilles aux couleurs d'octobre des innombrables arbres du parc, de l'autre côté du boulevard, semblent s'embraser sous l'effet de la lumière réfléchie par le dôme. « Je suis membre, » dit le diacre. « Nous ne devrions pas avoir de problème pour monter à la salle des cartes. » J.C. et moi échangeons un coup d'œil. Hormis un buste de l'explorateur David Livingstone posé dans une niche du mur à l'extérieur de la cour, rien ne laisse deviner que les géographes et les explorateurs considèrent ce vaste édifice comme le centre de l'univers. À l'intérieur, on nous prend nos chapeaux et nos manteaux, et un vieil homme aux cheveux argentés, portant queue de pied et cravate blanche, dit
« Monsieur Deacon, bon retour parmi nous, monsieur. Cela fait trop longtemps que nous n'avons pas eu le plaisir de vous voir ici. »
« Merci, James, » répond le diacre. « Si je ne me trompe pas, le colonel Norton et quelques autres nous attendent dans la salle des cartes. »«
Oui, monsieur. Leur réunion a pris fin il y a quelques minutes et les cinq gentlemen patientent dans le salon adjacent. Voulez-vous que je vous y conduise, monsieur ?»«
Nous nous débrouillerons. Merci, James. » Les larges couloirs au parquet ciré, garnis de vitrines d'exposition, me donne envie de chuchoter comme dans une église, mais le diacre n'a pas baissé la voix. La salle des cartes est magnifique. Mezzanine où s'alignent des livres reliés de cuir, longue table présentant des cartes sur des pupitres en bois, un globe terrestre d'une taille telle qu'un acrobate pourrait dévaler Kensington Gore en équilibre dessus, mais l'espace n'est pas aussi vaste que je l'avais imaginé. Nous pénétrons dans la pièce voisine, percée de hautes fenêtres, et où un feu brûle dans la cheminée. Ingston, Noel, Norton, Somerville et Odell se lèvent à notre approche. Le diacre nous présente, J.C. et moi, et nous prenons place tous les trois dans de profonds fauteuils de cuir disposés en arc de cercle devant la cheminée. Par les fenêtres derrière nous, la lumière du couchant s'est adoucie pour n'être plus qu'un halo doré. Pendant les présentations et les poignées de main, je me rends compte que si je n'ai jamais rencontré ces hommes en chair et en os, je croyais savoir à quoi ils ressemblaient grâce aux photographies publiées de leurs différentes expéditions. Mais sur les clichés, presque tous portaient la barbe, alors qu'ils sont maintenant rasés de frais, sauf deux qui arborent des moustaches bien taillées. Je ne les aurais probablement pas reconnus si je les avais croisés dans la rue. Le colonel Edward Felix, dit Teddy Norton, est excessivement grand. Il dépasse de quelques centimètres mon 1m98, et tout chez lui, de son air calme et compétent à son regard froid, trahit le militaire depuis longtemps habitué au poste de commandement. Le docteur Richard Ingston, un homme mince de 37 ans, n'est pas un alpiniste. Il a participé à l'expédition du printemps précédent au titre de médecin et de naturaliste, mais n'en a pas moins grimpé jusqu'au camp 4, sur le col Nord, pour s'occuper de Norton, atteint de cécité des neiges, et d'autres malades coincés là-haut. Pendant la guerre, il a servi comme médecin en France, en Mésopotamie et en Afrique de l'Est, et a été décoré de la croix militaire pour sa bravoure. Même s'il n'est pas un ascensionniste, il m'inspire un grand respect. Theodore Howard Somerville, appelé Howard par ses amis et présenté ainsi par le diacre, est également médecin et ancien missionnaire, bien qu'il paraisse aussi costaud qu'un docker. Par le diacre, nous savons qu'il n'est pas revenu vivre en Angleterre après l'expédition de 1922 dans l'Everest, choisissant de s'installer et de travailler dans une mission médicale à Neyur, dans le sud de l'Inde. Il se trouve à Londres uniquement pour assister à la cérémonie en mémoire de Mallory et d'Irvin et participer à cette série de réunions et de banquets de l'Alpine Club et de la Royal Geographical Society. Somerville est un bel homme, même sans la grosse barbe noire qu'on lui voit sur les photos prises au Tibet. Ses cheveux bouclés, son visage bronzé, ses sourcils noirs expressifs et le sourire qui l'illumine soudain lui donnent une allure presque désinvolte, mais ce n'est pas sa nature. Le diacre ne parle pratiquement jamais de ce qu'il a vécu pendant la guerre, mais l'année dernière, une nuit où nous bivouaquions sur un sommet dans les Alpes, il a mentionné son grand ami Somerville, devenu pacifiste, lorsque, avec seulement 3 autres médecins dans une tente médicale, il avait dû prendre en charge des milliers de soldats blessés, beaucoup mortellement et le sachant, le premier matin de la bataille de la Somme. Somerville avait parlé à nombre de ses hommes étendus à l'extérieur de la tente, sur des brancards ou sur leurs capes ensanglantées. Tous savaient sans doute que sans soins médicaux d'urgence, ils risquaient de mourir. Mais pas un n'avait demandé à être soigné avant les autres. Pas un seul. En serrant la main de Somerville, calleuse pour une main de chirurgien, et en croisant son regard clair, je me demande si une telle expérience ne transformerait pas en pacifiste toute âme douée de sensibilité. Le diacre nous a aussi dit que, tout fervent chrétien qu'il soit, Somerville n'était absolument pas dogmatique. Le seul problème avec le christianisme, lui avait dit Somerville alors qu'il partageait une tente sur un col enneigé durant l'expédition de 1922, c'est qu'il n'a jamais été tenté. Le capitaine John Noel est un homme mince, au visage ridé et aux yeux caves en apparence inquiet. Et pour cause, il a déboursé 8000 livres sterling en contrepartie de tous les droits photos et cinématographiques. Il a emporté jusqu'en haut du col Nord des appareils photos et des caméras spécialement conçus pour pouvoir prendre des plans d'ensemble des alpinistes au moment où ils atteindraient le sommet. Il a monté une tente servant de chambre noire au camp de base et payé une équipe de coursiers pour acheminer ses photos développées de l'Everest jusqu'à Darjeeling afin qu'elles soient envoyées aux plus grands journaux anglais. Il met actuellement la dernière main à son film, l'épopée de l'Everest, mais des nuages ayant obscurci les ultimes images de Mallory et d'Irvin, du moins depuis le col Nord, il se murmure que le capitaine Noel n'est pas satisfait de la fin de son documentaire. Il a réussi à ramener à Londres une troupe de lamas danseurs d'un monastère tibétain, pas le monastère de Rongbuk près de l'Everest, pour animer ses projections, mais cette initiative, s'ajoutant à des scènes rebutantes montrant des Tibétains en train de manger des poux dans son film, semble déjà créer des problèmes diplomatiques. À moins que son documentaire ne connaisse un très large succès ici, en Angleterre et aux États-Unis, le pauvre Noël risque de perdre la plus grande partie de son investissement de 8000 livres. Enfin, en saluant Odell, je me rends compte que lui aussi a de bonnes raisons de paraître soucieux et distrait en ce soir d'automne 1924. Si le capitaine John Noel a été le dernier à recevoir un message de George Mallory, c'est le géologue et alpiniste Noel E. Odell, autre grand ami du diacre, qui restera dans l'histoire comme le dernier à avoir vu Mallory et Irvin vivants. La nuit précédant leur tentative d'ascension du sommet à partir de leur abri précaire au camp 6, Odell se trouvait seul au camp 5. Alors qu'il montait vers le camp 6 ce jour-là, qui devait être celui de la victoire, escaladant une paroi rocheuse de 30 mètres à environ 7900 mètres d'altitude vers 12h50, il avait vu M et I sur arête approchant la base de l'ultime pyramide, comme il l'écrivait ce soir-là dans son journal. Mais était-ce vrai ? Quelques jours seulement après la cérémonie commémorative en l'honneur de Mallory et d'Irvin et la réunion de l'Alpine Club qui avait mis l'Angleterre en effervescence, des alpinistes, parmi lesquels d'autres membres de la même expédition, émettaient déjà des doutes sur le récit d'Odell. Était-il possible que Mallory et Irvin aient franchi ce qu'on appelait le troisième ressaut pour aborder la pyramide sommitale enneigée dès 12h50? Possible, certes, mais très improbable. Leur vitesse d'ascension, même avec de l'oxygène, aurait été sacrément impressionnante. Non, soutiennent certains, c'est le deuxième ressaut qu'Odell a dû les voir escalader. Non, non, affirment d'autres experts, qui au même moment se trouvaient à plus de 8000 km de là, ce ne pouvait être que le premier ressaut que passaient Mallory et Irvin sitôt dans la journée. Odell devait se tromper. même s'il avait montré, photos et relevés topographiques à l'appui, que les arêtes et la masse de la montagne lui bouchaient la vue du premier ressaut de là où il se trouvait sur ce rocher escarpé. Mais le ciel ne s'était dégagé qu'une minute seulement, de sorte qu'il n'avait pu qu'apercevoir deux silhouettes humaines en train de grimper, s'il s'agissait bien de silhouettes humaines. De simples rochers dans un champ de neige, disaient certains alpinistes. Nous sommes tous assis, et un valet en queue de pie et cravate blanche vient de prendre notre commande quand le colonel Norton rompt le silence.
« C'est un plaisir de vous voir, Richard. Je regrette que nous n'ayons qu'une vingtaine de minutes à vous consacrer avant le dîner officiel de l'Alpine Club. Puisque vous êtes membre de la RGS et ancien participant à l'expédition, nous pourrions toujours vous trouver une place. »
Le diacre décline la proposition d'un geste de la main.
« Je n'ai pas la tenue adéquate, Teddy, et ce serait déplacé. Non, mes amis et moi souhaitons simplement vous poser à tous quelques questions, puis nous prendrons congé. »
Nos verres arrivent. Du whisky sec, de couleur ambrée, vieilli 18 ans dans un fût de sherry et qui me réchauffe la gorge. Mes mains ne tremblent pas, mais je me rends compte qu'elles le voudraient. Jamais plus, sans doute, je ne me retrouverai en si auguste compagnie, d'où ma nervosité. Je n'ai pas peur de tenter l'ascension de l'Everest, mais je suis presque effrayé en présence de ces hommes qui ont acquis une renommée mondiale en tentant la même aventure et en échouant.
À propos de Mallory et Darwin, je présume,
demande Norton d'un ton légèrement plus froid, me semble-t-il. Combien de fois ce groupe n'a-t-il pas été interrogé sur les héros disparus au cours des derniers mois?
Pas du tout, répond le diacre. J'ai rendu visite à Lady Bromley cet été et je lui ai promis de tenter d'en savoir le plus possible sur la disparition de son fils.
Le jeune Percival Bromley? Demande Noël, le réalisateur de films.
Comment pourrions-nous l'aider le moins du monde? Vous savez, Richard, Bromley n'était pas avec nous.
J'avais pourtant cru comprendre qu'il avait fait le trajet entre Darjeeling et Rongbuk avec vous. Le diacre sirote son whisky, son profil aquilin éclairé par le feu.
« Pas avec nous, » dit Howard Somerville.
« Derrière nous, seul. » Il montait un poney tibétain et son matériel était chargé sur un mulet. Toujours à un ou deux jours de distance. Il nous a rattrapés et s'est arrêté à notre campement.
« Combien de fois, John ?»
demande-t-il à Noël.
« 3 fois. »«
2 fois, je crois. »
répond le réalisateur. La première fois à Kampazong, où nous avons passé 3 nuits,
la deuxième à Shekardzong, avant que nous prenions au sud vers le monastère de Rongbuk. Nous avons passé 2 nuits à Shekardzong. Le jeune Bromley ne semblait jamais demeurer plus d'une nuit au même endroit. Il ne disposait que d'une simple tente Whymper, l'un des modèles les plus légers et les plus petits.
Dans ce cas, est-ce qu'il n'aurait pas dû vous dépasser pendant le périple? Demande Jean-Claude. Apparemment, il apprécie son whisky.
« Si vous couchiez plusieurs nuits dans certains endroits, contrairement à lui... »«
Ah, je comprends, » dit le docteur Ingston en riant.
« Mais non, il semble que Bromley ait fait de petits détours. Il a longé la rivière Yarouchou vers le sud, par exemple, après que nous avons passé 2 nuits à Tinkizong. Peut-être voulait-il avoir un aperçu de l'Everest depuis les montagnes à cet endroit. En tout cas, il se trouvait encore derrière nous quand nous sommes arrivés à Shekardzong.
Le plus étonnant... » dit le colonel Norton, c'est que les 2 fois où le jeune Lord Percival nous a rendu visite, il a apporté sa nourriture et sa boisson. Il a absolument refusé notre hospitalité. Dieu sait pourtant que nous ne manquions pas de vivre. Nous avons laissé des tonnes de conserves derrière nous en repartant.
Il était donc bien équipé, demande le diacre.
Pour un week-end de camping dans le Lincolnshire,
répond John Noel.
Pas pour une expédition en solitaire au Tibet.
Comment a-t-il pu voyager seul, sans autorisation officielle du gouvernement tibétain? M'entends-je demander. Je sens le rouge me monter aux joues, aussi chaude que le whisky dans mon ventre. Je n'avais pas prévu de parler ce soir.
Très bonne question, monsieur Perry, dit le colonel Norton. Nous la sommes posée également. Le Tibet est en état de quasi-barbarie, mais les Dzongpons locaux, les chefs de tribus et de villages, ainsi que le gouvernement, postent des gardes et des soldats ici et là, et tout particulièrement sur les hauts cols impossibles à contourner. Les gardes vérifiaient nos papiers à ces endroits. Je dois donc en déduire que Lord Percival disposait d'autorisation officielle quelconque, peut-être obtenue par l'intermédiaire du gouverneur du Bengale.
La plantation Bromley-Montfort à présent, située près de Darjeeling, entretient depuis longtemps des relations cordiales avec les Tibétains, de même qu'avec les dirigeants du Bengale et du Sikkim.
Je suis moi-même allé voir Lord Percival à son campement une fois ou deux,
dit Noël Hotel.
Au tout début de l'expédition, juste après avoir franchi le Gelepla pour entrer au Tibet. Le jeune Percival semblait très satisfait de sa solitude. Pas franchement accueillant, mais assez aimable une fois que j'ai été assis devant son feu. Voyez-vous, je m'inquiétais pour lui. À ce stade, nombre d'entre nous souffraient déjà de dysenterie ou présentaient les premiers symptômes du mal aigu des montagnes. Mais Broblem a paru très en forme. Chaque fois que nous l'avons vu, il a semblé en bonne santé et avoir bon moral.
Vous a-t-il suivi de Shekharzong jusqu'à votre camp de base au pied du glacier du Rongbak ? Demande le diacre.
Oh, grand Dieu, non ! Répond le colonel Norton. Nous avons bifurqué vers le sud pour rejoindre l'Everest, tandis que Bromley a continué vers l'ouest, en direction de Tingri, situé à une vingtaine de kilomètres. Nous ne l'avons jamais revu. J'ai eu l'impression qu'il comptait explorer la zone située au nord-ouest de Tingri. Une grande partie de ce territoire demeure inexplorée. Comme vous le savez, Richard, Tingri est un village assez sinistre, avec son ancien fort de garnison tibétain perché sur une haute colline. Vous y étiez avec nous lorsque nous y avons fait un détour en 1922, si je me souviens bien.
Oui, dit le diacre sans rien ajouter d'autre.
J'ai cru comprendre, dit le docteur Ingston, et ce dès que nous l'avons vu à la plantation familiale des Bromley, qu'il allait au Tibet rencontrer quelqu'un. Il semblait avoir juste assez de provisions et de matériel pour atteindre le lieu du rendez-vous, quelque part au-delà de Shekharzong.
Du matériel d'escalade ? Demande le diacre.
Bruno Siegel a raconté à la presse allemande que Lord Percival et un autre homme étaient morts dans une avalanche à haute altitude sur l'Everest.
L'un d'entre vous l'a-t-il vu transporter un équipement d'alpinisme ?
Des cordes, répond Norton. On en a toujours besoin au Tibet. Mais il n'en avait pas assez pour tenter une ascension de l'Everest. Pas assez de cordes, de nourriture, de tentes, de réchaud primus, ni de tout ce qui lui aurait été nécessaire pour atteindre ne serait-ce que le camp 3, sans parler du col Nord, et encore moins du camp 5 ou de la face de la montagne.
Ce Bruno Siegel, commence le diacre, est un foutu menteur, le coupe le colonel Norton.
Désolé, Richard. Je ne voulais pas être grossier, mais tout ce que Siegel a raconté à la presse relève de l'affabulation.
Vous n'avez donc jamais vu Siegel, ni d'autres Allemands, ni cet Autrichien nommé Meyer, qui a prétendument trouvé la mort en même temps que Lord Percival ? Demande le diacre.
Jamais entendu parler d'une présence allemande à moins de 1000 kilomètres à la ronde, lorsque nous étions sur la montagne ou le glacier,
confirme le colonel Norton.
Des taches roses sont apparues sur ses pommettes saillantes. J'en déduis que le verre de scotch qu'il vient de terminer n'est pas son premier de la soirée.
À moins que la simple idée que des Allemands aient pu se trouver à proximité lors de leur tentative d'ascension de l'Everest ne lui soit à ce point intolérable.
J'avoue être un peu perdu, dit le diacre. Les derniers membres de votre groupe ont quitté le camp de base quand ?
Le 16 juin, soit 8 jours après la disparition de Mallory et d'Irvine.
C'est bien ça ?
Oui,
confirme Odell. Nous avons laissé aux alpinistes exténués le temps de se reposer, avons bâti un tumulus en mémoire de George et de Sandy, et des porteurs disparus en 1922, et les derniers ont quitté la vallée du Rongbuck l'après-midi du 16. Tous les hommes étaient mal en point, sauf moi, étonnamment. Problème cardiaque, séquelle de la cécité des neiges pour le colonel Norton, gelure, épuisement, mal des montagnes, maux de tête pour tous. Tout le monde toussait en permanence.
La toux a bien failli me tuer là-haut.
Renchérit Howard Somerville. Nous sommes repartis par groupe, et invalides pour la plupart. Le plus gros de la troupe a accompagné le colonel Norton dans la vallée de Rongchar, sous le Gauri Sankar, pour explorer cette région inconnue, comme nous y étions autorisés, et pour récupérer pendant 10 jours à plus basse altitude, avant d'entamer la difficile marche de retour.
Comme je devais rapporter mon film, explique le capitaine Noël, je suis retourné directement à Darjeeling avec les porteurs et les mulets.
John de Verhazard, notre principal cartographe, voulait achever les relevés commencés par votre expédition de 1922, Richard, dit le colonel Norton. Nous l'avons laissé accompagner Hari Singh Thapa, du Survey of India, l'organisme chargé de la cartographie des Indes, dans la région du Rongbuk occidental pendant quelques jours. Ils ont pris la direction de l'ouest avec quelques porteurs, le jour où la plupart d'entre nous sont partis vers le nord et l'est.
« Et moi aussi, je me suis offert une petite escapade, » dit Odell. « J'avais encore quelques travaux géologiques à terminer. »
Ce qui fait rire les quatre autres célébrités. Le zèle d'Odell, même à plus de 8200 mètres d'altitude, est manifestement devenu un sujet de plaisanterie pour ces survivants d'ordinaire austère. J'ai dit à Odell qu'il pouvait s'accorder ce petit détour de 150 kilomètres, à la condition qu'il se fasse accompagner par Edward Shebir, notre responsable du transport, explique Norton. Les collines du Tibet sont infestées de bandits. Au moins, Shebir parlait-il un peu tibétain.
Odell regarde le colonel. « Et vous l'avez averti qu'après cette petite excursion en ma compagnie, il ne pourrait plus me supporter. »
Shebir me l'a avoué une semaine plus tard. « D'après lui, vos propos exacts étaient « Mon cher Shebir, vous ne voudrez sans doute plus jamais poser les yeux sur Odell. »
Le colonel Norton baisse la tête vers son verre et les deux cercles roses sur ses pommettes semblent briller d'un rouge plus sombre.
En fait, Shebir et moi avons beaucoup apprécié les quelques jours passés ensemble à faire ces relevés géologiques, poursuit Odell. Nous sommes même devenus très amis. Nous sommes arrivés à Darjeeling le même jour que le groupe principal, qui venait de profiter d'une longue semaine de récupération dans la vallée de Rongchar, et juste avant le retour de Hazard avec Hari Singh Thapa et les porteurs qu'ils avaient emmenés au Rongbuk occidental pour leur expédition cartographique.
Consultant sa montre de gousset, le diacre dit
« Il ne nous reste que quelques minutes avant votre dîner, mes amis. » Et j'avoue que j'ai complètement perdu de vue Lord Percival, sans parler des Allemands. L'annonce de la mort de Bromley et du dénommé Meyer est parue dans le Times la même semaine que le compte-rendu complet concernant Mallory et Irvine.
Je suppose que c'est vous qui l'avez télégraphié de Darjeeling.
Si vous n'avez pas revu Bromley après le 24 avril, quand votre expédition est partie vers l'Everest par le sud, alors que Bromley a continué vers Tingri, alors...
« Comment ?»« Désolé, Richard, » dit le colonel Norton. « C'est un récit un peu embrouillé, mais c'est ainsi que nous a été rapportée la mort de Bromley. Laissez-moi vous expliquer. En approchant de la région du Rongbuk occidental pour faire leur relevé, John Hazard et Hari Singh Thapa ont croisé des pèlerins qui leur ont dit que deux sahibs anglais, l'un nommé Bromley, l'autre un sahib anglais ne parlant pas anglais, du nom de Meyer, avait loué Siya Katingri et comptait se diriger vers le sud, puis vers l'est, en suivant la rivière jusqu'à Chobuk, et de là poursuivre vers le sud le glacier du Rongbuk et le Chomo Lungma.
Les Tibétains ont vraiment dit que Bromley et ce Meyer faisaient route ensemble vers l'Everest.
Le diacre a fini son whisky et pose délicatement son verre vide sur la table en rotin à côté de son fauteuil.
« Absolument, » acquiesce le colonel Norton. Hari Singh Thapa traduisait leurs propos. Cela leur a été confirmé par deux autres pèlerins en route vers le monastère du Rongbuk, que Hazard et Singh Thapa ont rencontré alors qu'ils retournaient vers le col de Pangla et Shekharzong pour rentrer. Ces pèlerins ont ajouté que sept autres sahibs anglais ne parlant pas anglais étaient arrivés à Tingri le lendemain du départ de Bromley et Meyer et qu'ils étaient repartis tout de suite vers le sud-est, comme s'il les suivait.
Comme c'est étrange, commente le diacre.
En plus de cela, continue Norton, Hazard et Hari ont vu Bromley et Meyer, et les sept hommes qui les suivaient.
Où est John Hazard maintenant?
Demande Jean-Claude. John Noel fait un geste vague de la main gauche.
Oh, quelque part en Inde, je suppose, à poursuivre ses travaux officiels de cartographie.
Et Hari Singh Thapa? Demande le diacre.
Lui aussi a dû reprendre son métier de géomètre là-bas, répond le colonel Norton.
Pouvez-vous nous décrire ce que Hazard a vu?
S'enquiert le diacre. Le docteur Ingston est le premier à parler. Je sens la tension dans mon cou et mon dos s'intensifier tandis que les dernières minutes défilent sans que nous ayons obtenu d'informations tangibles.
Hazard et Hari, en route vers le nord-est, venaient de s'engager sur la vieille piste commerciale montant au col de Pangla, quand Hari, il avait la meilleure vue des deux, a cru apercevoir deux groupes de cavaliers se dirigeant vers le sud. Ils étaient à des kilomètres, mais le temps était parfaitement dégagé, d'après Hazard. Ils voyaient l'Everest fumer encore plus que d'habitude,
et son panache de neige s'étendait sur des dizaines de kilomètres vers l'est. Ils ont alors fait un détour jusqu'à une colline voisine pour que John puisse utiliser ses jumelles militaires afin d'en avoir le cœur net. Au loin, vers le sud, il y avait deux hommes. John a formellement reconnu le poney de Bromley et le mulet qu'il avait amené de Darjeeling. Sauf que Bromley et son nouveau partenaire étaient aussi accompagnés de Siyak. Très loin derrière, à peut-être 5 ou 6 heures de chevauchée, cet homme avançait sur de plus grandes montures, soit des chevaux, soit, selon Harry, ses grands poneys mongols hirsutes.
Cela ressemblait-il à une poursuite ? Demande le diacre. Hazard a surtout trouvé ça foutrement étrange, répond Norton. Plus tard, il s'est dit qu'ils auraient peut-être dû retourner vers Rongbuck pour voir de quoi ils retournaient, au cas où Bromley et ses autres hommes auraient été en train de braconner sur notre montagne. Mais il était déjà à plusieurs jours derrière nous à cause de ses travaux cartographiques. Comme il voulait nous rattraper avant notre arrivée à Calcutta, Harry et lui ont poursuivi leur chemin vers le col de Pangla, au nord.
« À quelle date les ont-ils vus ?» demande le diacre.
« Le 19 juin, » répond Norton. « 3 jours après que notre groupe s'est scindé en quittant la vallée du Rongbuck. »
« Tout ça est passionnant, » dit le diacre. « Mais ça n'explique pas pourquoi vous avez annoncé que Lord Percival était mort dans une avalanche. »
Vous avez reçu davantage d'informations par une autre source fiable, je suppose.
Effectivement, confirme Odell. Alors que Chibert et moi terminions notre excursion géologique et nous dirigions vers le nord pour rejoindre la piste principale, nous avons croisé 3 de nos Sherpas. Ils nous avaient accompagnés à l'Everest et s'étaient révélés précieux pour le portage à très haute altitude. Vous vous souvenez peut-être de Pemba Shearing, Richard, celui qui parlait très bien anglais. Tout le monde l'appelait Camille.
« Oui, je me rappelle bien, Camille. Il a transporté de lourdes charges jusqu'au camp 5, sans oxygène supplémentaire. »«
Exactement !» poursuit Odell. « Et il s'est montré tout aussi compétent pendant la triste expédition de cette année. Mais Shebir et moi avons été surpris de voir Camille et ses 2 cousins, Dasno et Nema, qui, eux, ne parlaient pas anglais, alors que nous retournions vers le nord-est. » Ils cravachaient littéralement leur petit poney tibétain. Et vous savez que ce n'est pas dans l'habitude des Sherpas. Ils étaient retournés au glacier du Rongbuck et s'enfuyaient à présent comme s'ils avaient le diable aux trousses.
« Quand était-ce ? » demande le diacre.
« Le 22 juin, » répond Odell.
Le colonel Norton s'éclaircit la gorge.
Camille et ses cousins étaient repartis avec nous, puis avaient demandé l'autorisation de quitter le groupe principal. J'ai accepté, pensant qu'ils comptaient rentrer chez eux tout seuls. En fait, ils avaient l'intention de retourner à notre camp de base, peut-être même au camp d'altitude.
« Pour les piller ?» demande Jean-Claude.
« Ou du moins récupérer ce qui pouvait l'être ?»
Norton hausse les sourcils. « On pourrait le croire, bien que nous n'y ayons rien laissé de valeur, à moins de compter les caches d'orge et de conserves de nourriture disséminées dans les différents camps. »
Camille m'a affirmé plus tard qu'ils avaient oublié un talisman religieux, dit Odell. Ils pensaient l'avoir laissé au camp de base ou peut-être glissé entre les pierres d'un des sangas au camp 2. Il m'a dit qu'ils ne pouvaient pas rentrer dans leur village ou leur famille sans lui. Je l'ai cru.
Qu'ont-ils raconté avoir vu ? Demande le diacre.
Je jette un coup d'œil discret à ma montre. Il ne nous reste que 3 minutes avant que ces éminents grimpeurs ne rejoignent le banquet officiel de la Royal Geographical Society, ici à Lowther Lodge. Dehors, les lampadaires électriques sont allumés dans Exhibition Road, là où elle croise Kensington Road. La nuit d'octobre est tombée.
Camille et ses cousins ont atteint notre vieux camp de base le 20 juin, dit Odell. Ils ont cherché leur talisman en vain. Ce qu'ils ont trouvé, en revanche, les a choqués. 7 poneys mongols entravés en contrebas du tumulus, là où il y avait un peu d'herbe, à quelques centaines de mètres en dessous de la mare de fonte.
Personne ne gardait les poneys.
Absolument personne, dit Odell.
Et un peu plus haut dans la vallée, avant de s'enfoncer trop profondément entre les pénitents de glace, ils sont tombés sur ce que Camille a aussitôt reconnu comme étant la tente Whimper de Lord Bromley, celle dans laquelle il avait dormi les nuits où nous l'avions vu, et sur 2 poneys tibétains morts. Les poneys avaient été tués d'une balle dans la tête.
D'une balle dans la tête ? S'écrie Jean-Claude.
Odell hoche la tête. Camille nous a dit que ses jeunes cousins et lui étaient inquiets. Nema a refusé d'aller plus loin ou de rester à côté des poneys morts,
si bien que Dasno est reparti avec lui au camp de base, tandis que Camille continuait à escalader le glacier jusqu'au camp 2. Il devait absolument retrouver le talisman, m'a-t-il dit. Il était également curieux et se faisait du souci pour Bromley, qui s'était montré aimable avec lui durant ses quelques visites à notre camp pendant le trajet.
« A-t-il revu Bromley ? » dis-je.
« Non, » répond Odell. Camille a retrouvé son talisman, glissé entre les pierres du Sangha qu'ils avaient monté au camp 2, pile à l'endroit où ils pensaient l'avoir oublié.
« Qu'est-ce qu'exactement qu'un Sangha, déjà ?» demande Jean-Claude.
« Ce sont les murets de pierre que les porteurs et nous bâtissons au camp 1 et au-dessus, » répond le diacre. « Ils protègent les tentes et empêchent les choses de s'envoler quand le vent se lève. » Les porteurs dorment souvent à l'intérieur des sanghas sur une toile de sol, avec une bâche tenue par des pieux en guise de toit.
Le diacre se tourne vers Odell.
« Qu'a vu Camille ?»
Odell se frotte la joue.
Il nous a avoué qu'il aurait dû partir rejoindre ses cousins après avoir récupéré son talisman, mais que, par curiosité, il avait continué l'ascension vers le camp 3.
« Ce devait être dangereux avec la neige de la mousson dissimulant les crevasses ?» dit Jean-Claude.
« C'est ça qui est curieux, » commente le colonel Norton. « Nous nous attendions à ce que la mousson frappe la première semaine de juin. Il y avait eu de violentes rafales les quelques jours précédant la dernière tentative de Mallory et d'Irvine. Mais la mousson n'était pas arrivée à Rongbuck lorsque nous sommes repartis le 16 juin et n'avait toujours pas commencé quand Camille est retournée là-bas le 20. De la neige, des vents très forts, mais pas de mousson proprement dit. Elle n'a pas vraiment débuté avant notre retour à Darjeeling. Très curieux.
Camille nous a raconté que lorsqu'il était au camp 2, bien avant d'avoir parcouru les 6 derniers kilomètres sur le glacier et à travers le dédale de hauts pénitents, il a entendu ce qui ressemblait à des coups de tonnerre, plus haut sur la montagne, au-dessus du col nord,
dit Odell. Du tonnerre, demande le diacre.
Camille a trouvé ça très étrange, dit Odell, vu que le temps était parfaitement dégagé. Ciel bleu, panache de neige clairement visible au sommet de l'Everest. Mais d'après lui, ça ressemblait à un bruit de tonnerre.
Une avalanche, suggère J.C.
Ou des coups de feu et leur écho, dit le diacre.
Norton paraît choqué par cette hypothèse, mais Odell opine.
Cette nuit-là, Camille a bivouaqué sur le glacier. À la lumière de l'aube, il a vu de nouvelles tentes sur le site de notre camp 3 et d'autres sur la vire du col nord, là où nous avions établi le camp 4. Il nous a également dit qu'il avait vu 3 silhouettes plus haut sur la montagne, au-dessus du point où l'arête nord-est rejoint l'arête nord. Loin à l'ouest, a-t-il précisé, entre les premiers et deuxièmes ressauts, là où il y a un bloc de roche en forme de champignon. 3 petites silhouettes se trouvaient à côté de ce rocher, puis soudain, il n'en est resté qu'une. Plusieurs heures plus tard, il a vu des hommes descendre la paroi de glace du col nord en utilisant l'échelle de corde que Sandy et Irvine avaient bricolée. D'après lui, ils étaient 4 ou 5.
Même un Sherpa doté d'une excellente vue n'aurait pas pu distinguer des silhouettes aussi haut sur la ligne de crête, fait remarquer le diacre.
C'est vrai, dit le colonel Norton avec un sourire.
Camille a avoué avoir emprunté une bonne paire de jumelles Zeiss qu'il a trouvées dans une des tentes vides au camp 3.
« Et vous aviez laissé l'échelle de corde d'Irvine en partant ?» demande le diacre à Norton.
« Sur la falaise de glace du col nord. »«
Nous avions envisagé de l'enlever, » répond le colonel. « Elle était effilochée et usée et pouvait se révéler dangereuse. » Mais c'était trop compliqué, et certains estimaient qu'elle pouvait tenir jusqu'à notre prochaine expédition. À vrai dire, nous l'avons aussi laissée là en mémoire de Sandy.
Le diacre hoche la tête.
Je sais que vous allez tous devoir partir dans un moment, mais que vous a dit Camille qui vous est incité à annoncer la mort de Lord Percival, tel que rapporté par cet Allemand du nom de Bruno Siegel?
Odell s'éclaircit la gorge.
Bien que ce bruit de tonnerre l'ait effrayé, Camille est resté près du camp 3 ce deuxième jour pour voir qui étaient les silhouettes qu'il avait aperçues, espérant qu'il s'agisse de Bromley. Mais juste au moment où il s'apprêtait à renoncer et quitter la zone du camp 3, un homme lui a crié de s'arrêter. Il parlait anglais avec un accent très prononcé et tenait un pistolet noir. Un Luger, a cru Camille. Il s'est arrêté.
« Un pistolet sur l'Everest ?»
murmure Jean-Claude.
J'entendais dans sa voix le dégoût que lui inspirait cette idée. J'éprouvais le même.
Au moins, ça répond à la question de savoir qui a abattu les poneys de Bromley et Meyer, dis-je.
Pas forcément, objecte le diacre. Les bêtes étaient peut-être blessées. Bromley et Meyer les ont peut-être tués eux-mêmes, en projetant de marcher jusqu'à Tingri ou chez Kardzong avec les yaks.
Quoi qu'il en soit, le pauvre Camille a cru qu'il allait se faire tuer parce qu'il était entré dans les tentes où avaient volé les jumelles Zeiss, poursuit Odell. Il nous a dit qu'il espérait seulement que ses cousins auraient le courage de revenir pour retrouver son corps et l'enterrer sur place dans une crevasse avec les rituels d'usage. Mais l'Allemand lui a demandé en anglais, Camille a passé assez de temps à Calcutta pour reconnaître un accent allemand, qui il était. Camille lui a répondu qu'il était un Sherpa accompagnant l'expédition Norton Mallory, qu'il était revenu avec d'autres rechercher des objets oubliés et que ses compagnons attendaient son retour. L'Allemand a voulu savoir combien ils étaient. 9 a menti Camille, dont 2 sahibs attendant au monastère du Rongbuk.
C'était malin de sa part, observe le diacre.
L'Allemand a rangé son arme, s'est présenté comme un explorateur européen du nom de Bruno Siegel, et il a précisé qu'il était venu ici reconnaître la région en compagnie de 2 amis. Un nombre auquel Camille n'a pas cru, puisqu'il avait vu 7 poneys mongols et 4 ou 5 silhouettes sur l'échelle de corde d'Irvine. Siegel a ensuite dit qu'il aurait vu Bromley et un Autrichien du nom de Kurt Meyer périr dans une avalanche 20 heures plus tôt. Camille a eu la présence d'esprit de demander où le sahib Bromley était mort, et Siegel lui a répondu « dans la montagne au-dessus du camp 4 sur le col Nord ». Camille nous a dit que la nouvelle l'avait beaucoup attristé. En fait, il a même pleuré devant Siegel, mais en partie, a-t-il admis, parce qu'il savait que l'Allemand lui avait menti à propos du lieu de la mort de Bromley et qu'il craignait toujours pour sa vie. Siegel lui a seulement fait signe de déguerpir en lui ordonnant de se tenir éloigné du Rongbuk. Camille a obéi, conclut Odell, redescendant presque en glissade certaines parties dangereuses du glacier jusqu'à ce qu'il ait rattrapé Nema et Dasno. Les 3 cousins ont ensuite cravaché leur petit poney et chevauché la nuit entière avant de nous croiser, Shebir et moi, qui nous dirigions vers le nord pour retrouver les routes commerciales.
Nous avons donc mentionné l'accident mortel de Bromley dans le premier compte-rendu détaillé que nous avons télégraphié au Times depuis Darjeeling, dit le colonel Norton. Moins de 2 jours après que nous avons tous pris le train pour Calcutta, Siegel est lui-même arrivé à Darjeeling et a télégraphié sa version de la mort de Bromley au Völkischer Beobachter en Allemagne.
C'est un des journaux fascistes, n'est-ce pas?
Demande Jean-Claude.
Oui, dit Sommervel. Le journal du Parti National-Socialiste.
Mais Siegel étant un alpiniste respecté, l'information a été reprise par le Deutsche Allgemeine Zeitung, puis le Berliner Tageblatt, et ensuite par la Frankfurter Zeitung. L'histoire de Siegel a été reproduite presque verbatim dans le Times, moins d'une journée après notre propre annonce sommaire, et insérée dans notre compte-rendu d'une manière qui ne m'a pas beaucoup plu, pour être sincère. Norton et les autres acquiescent d'un mouvement de tête. Mais les propos de Hazard, de Hari Singh Thapa, des pèlerins tibétains et de Camille confirment la version de Siegel, selon laquelle Bromley est bien allé à l'Everest et a commencé l'ascension, répond le diacre.
Je ne peux pas laisser Lady Bromley espérer que les informations concernant la disparition de son fils dans la montagne soient fausses.
Peut-être pas, dit Howard Somerville. Mais tout cela est diablement bizarre. Ça laisse un mauvais goût dans la bouche, vous ne trouvez pas?
Et pas seulement parce que le jeune Bromley était un aristocrate.
Somerville frappe les accoudoirs en cuir de son fauteuil.
« Eh bien, messieurs, je crois qu'il est l'heure.
Nous nous levons. »
« Une dernière chose, »
dit le diacre après avoir une fois encore remercié ses anciens partenaires pour le temps qu'ils nous ont consacré.
« Bruno Siegel n'est pas un inconnu. Il pratique l'alpinisme depuis des années, bien qu'à ma connaissance, il n'ait jamais été un explorateur. Mais qu'en est-il de Kurt Meyer? Pourquoi Bromley aurait-il choisi de tenter de gravir l'Everest avec lui? »
Le colonel Norton hausse les épaules. L'Alpine Club s'est renseigné auprès des clubs d'alpinisme allemands et autrichiens, qui disent ne trouver aucune trace d'un ascensionniste répondant au nom de Kurt Meyer.
C'est étrange.
Tout est très étrange, si vous voulez mon avis, renchérit le docteur Ingston alors que nous traversons la salle des cartes en chemin vers la salle du banquet.
Foutrement étrange.
S'ensuivent des poignées de main et des adieux bien plus chaleureux que les premières salutations. Dehors, un vent du nord soufflant de Kensington Gardens balaie la large avenue. Il charrie un parfum de plantes et de fleurs tardives, mais aussi celui, plus fort et plus triste, des feuilles tombées et pourrissantes. L'odeur pas désagréable de la mort en automne. Les nuages sont bas, et je sens qu'il va bientôt pleuvoir.
Nous ferions mieux de trouver un taxi, lance le diacre.
Aucun de nous n'ouvre la bouche pendant le trajet jusqu'à l'hôtel.